Moi, j'ai vécu pendant 3 ans à la rue. Vous êtes 80% du temps assis par terre. Donc vous êtes petit par rapport aux gens qui passent à côté de vous. Le 22 septembre 2019, à 10h36, ma nouvelle vie commençait.
Lui, c'est Fred, un ancien SDF qui vient de passer 3 ans dans la rue. Et pourtant, il dit avoir réussi sa vie. C'est un témoignage bouleversant que je vous propose de découvrir sur le podcast Les Lueurs, disponible sur toutes les applications d'écoute et sur YouTube. A tout de suite.
Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le fétu de paille, deuxième partie.
Eh bien, j'y vais, s'écria Maître Goussot. Qu'on m'allume une lanterne.
Mais à ce moment, 3 gendarmes arrivèrent et il affluait aussi des gars du village qui s'en venaient aux nouvelles. Le brigadier de gendarmerie était un homme méthodique. Il se fit d'abord raconter toute l'histoire, bien en détail, puis il réfléchit, puis il interrogea les 4 frères, séparément, et en méditant après chacune des dépositions. Lorsqu'il eut appris d'eux que le cheminot s'était enfui vers le fond du domaine, qu'on l'avait perdu de vue plusieurs fois, et qu'il avait disparu définitivement aux environs d'un endroit appelé « la butte au corbeau », il réfléchit encore et conclut « Faut mieux attendre. Dans tout le fourbi d'une poursuite, la nuit, le père Drénard peut se faufiler au milieu de nous. Et bonsoir la compagnie !» Le fermier haussa les épaules et se rendit en maugréant aux raisons du brigadier. Celui-ci organisa la surveillance, répartit les frères Goussot et les gars du village sous la surveillance de ses hommes, s'assura que les échelles étaient enfermées et installa son quartier général dans la salle à manger où Maître Goussot et lui somnolèrent devant un carafon de vieille eau-de-vie. La nuit fut tranquille. Toutes les 2 heures, le brigadier faisait une ronde et relevait les postes. Il n'y eut aucune alerte. Le père Trénard ne bougea pas de son trou. Au petit matin, la battue commença. Elle dura 4 heures. En 4 heures, les 5 hectares du domaine furent visités, fouillés, arpentés en tous sens par 20 d'hommes qui frappaient les buissons à coups de canne, piétinaient les touffes d'herbe, scrutaient le creux des arbres, soulevaient les amas de feuilles sèches. Et le père Trénard demeura invisible.
« Ah bien, elle est raide celle-là !» grinçait Maître Goussot.
« C'est à n'y rien comprendre !» répliquait le brigadier.
Phénomène inexplicable, en effet. Car enfin, à part quelques anciens massifs de lauriers et de fusains que l'on bâtit consciencieusement, tous les arbres étaient dénudés. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune meule, bref, rien qui pût servir de cachette. Quant au mur, un examen attentif convainquit le brigadier lui-même, l'escalade en était matériellement impossible. L'après-midi, on recommença les investigations en présence du juge d'instruction et du substitut. Les résultats ne furent pas plus heureux. Bien plus, cette affaire parut aux magistrats tellement suspecte qu'ils manifestèrent leur mauvaise humeur et ne purent s'empêcher de dire
« Êtes-vous bien sûr, Maître Goussot, que vos fils et vous n'avez pas eu la berlue ?»«
Et ma femme ?» cria Maître Goussot, rouge de colère. « Est-ce qu'elle avait la berlue quand le chenapan lui serrait la gorge ? Regardez voir les marques !»«
Soit, mais alors où est-il, le chenapan ?»«
Ici, entre ces 4 murs !»«
Soit, alors cherchez-le. Pour nous, nous y renonçons. » Il est trop évident que, si un homme était caché dans l'enceinte de ce domaine, nous l'aurions déjà découvert.
« Eh bien, je mettrai la main dessus, moi qui vous parle !» gueula Maître Goussot. « Il ne sera pas dit qu'on m'aura volé 6 000 francs !»« Oui, 6 000 !»« Il y avait 3 vaches que j'avais vendues, et puis la récolte de blé, et puis les pommes !»« 6 billets de 1 000 que j'allais porter à la caisse !»« Eh bien, je vous jure Dieu !» que c'est comme si je les avais dans ma poche.
« Tant mieux, je vous le souhaite !»
fit le juge d'instruction en se retirant, ainsi que le substitut et les gendarmes. Les voisins s'en allèrent également, quelque peu goguenards. et il ne resta plus à la fin de l'après-midi que les Goussot et les deux valets de ferme. Tout de suite, Maître Goussot expliqua son plan. Le jour, les recherches. La nuit, une surveillance de toutes les minutes.
Mais quoi ? Le père Traînard était un homme comme les autres, et les hommes, ça mange et ça boit. Il faudrait donc bien que le père Traînard sortît de sa tanière pour manger et pour boire.
À la rigueur, dit Maître Goussot, il peut avoir dans sa poche quelques croûtes de pain, ou encore ramasser la nuit quelques racines. Mais pour ce qui est de la boisson, rien à faire, il n'y a que la fontaine. Bien malin s'il s'en approche.
Lui-même, ce soir-là, il prit la garde auprès de la fontaine. 3 heures plus tard, l'aîné de ses fils le relaya. Les autres frères et les domestiques couchèrent dans la maison, chacun veillant à son tour, et toute bougie, toute lampe allumée, pour qu'il n'y eût pas de surprise. 15 nuits consécutives, il en fut de même. Et 15 jours durant, tandis que 2 hommes et que la mère Goussot restaient de faction, les 5 autres inspectaient le clos d'Héberville. Au bout de ces 2 semaines, rien. Le fermier ne dérageait pas. Il fit venir un ancien inspecteur de la sûreté qui habitait la ville voisine. L'inspecteur demeura chez lui toute une semaine. Il ne trouva ni le père Traînard, ni le moindre indice qui pût donner l'espérance de le trouver.
« Le raid !» répétait Maître Goussot. « Car il est là, le vaurien. Pour la question d'y être, il y est. Alors,
se plantant sur le seuil de la porte, il invectivait l'ennemi à pleine gueule.
« Bougre d'idiot ! T'aimes mieux donc crever au fond de ton trou que de cracher l'argent ? Crève donc, saligaud !»
Et la mère Goussot, à son tour, glapissait de sa voix pointue.
« C'est-il la prison qui te fait peur ? Lâche les billets et tu pourras déguerpir !»
Mais le père Traînard ne soufflait mot. Et le mari et la femme s'époumonaient en vain. Des jours affreux passèrent. Maître Goussot ne dormait plus, tout frissonnant de fièvre. Les fils devenaient hargneux, querelleurs, et ils ne quittaient pas leurs fusils, n'ayant d'autre idée que de tuer le cheminot. Au village, on ne parlait que de cela. Et l'affaire Goussot, locale d'abord, ne tarda pas à occuper la presse. Du chef-lieu de la capitale, il vint des journalistes que Maître Goussot éconduisit avec des sottises.
« Chacun chez soi, » leur disait-il. « Mêlez-vous de vos occupations, j'ai les miennes. Personne n'a rien à y voir. »«
Cependant, Maître Goussot, fichez-moi la paix !»
Et il leur fermait sa porte au nez. Il y avait maintenant 4 semaines que le père Traînard se cachait entre les murs d'Héberville. Les Goussot continuaient leurs recherches par entêtement et avec autant de conviction. Mais avec un espoir qui s'atténuait de jour en jour, et comme s'il se fût heurté à un de ces obstacles mystérieux qui découragent les efforts. Et l'idée qu'ils ne reverraient pas leur argent commençait à s'implanter en eux. Or, un matin, vers 10 heures, une automobile qui traversait la place du village à toute allure s'arrêta net par suite d'une panne. Le mécanicien, ayant déclaré après examen que la réparation exigerait un bon bout de temps, le propriétaire de l'automobile résolut d'attendre à l'auberge et de déjeuner. C'était un monsieur encore jeune, à favoris coupés courts, au visage sympathique, et qui ne tarda pas à lier conversation avec les gens de l'auberge. Bien entendu, on lui raconta l'histoire des Goussot. Il ne la connaissait pas, arrivant de voyage, mais il parut s'y intéresser vivement. Il se la fit expliquer en détail, formula des objections, discuta des hypothèses avec plusieurs personnes qui mangeaient à la même table, et finalement s'écria
« Bah, cela ne doit pas être si compliqué. J'ai un peu l'habitude de ces sortes d'affaires, et si j'étais sur place... »« Facile !» dit l'aubergiste. « Je connais Maître Goussot, il ne refusera pas. »
Les négociations furent brèves. Maître Goussot se trouvait dans un de ces états d'esprit où l'on proteste moins brutalement contre l'intervention des autres. En tout cas, sa femme n'hésita pas.
« Qu'il vienne donc, ce monsieur !»
Le monsieur régla son repas et donna l'ordre à son mécanicien d'essayer la voiture sur la grande route aussitôt que la réparation serait terminée.
« Il me faut 1 heure, »
dit-il. « Pas davantage. Dans une heure, soyez prêts. » Puis, il se rendit chez Maître Gousseau. À la ferme, il parla peu. Maître Gousseau reprit d'espérance malgré lui, multiplia les renseignements, conduisit son visiteur le long des murs et jusqu'à la petite porte des champs, montra la clé qu'il ouvrait et fit le récit minutieux de toutes les recherches que l'on avait opérées. Chose bizarre, l'inconnu, s'il ne parlait point, semblait ne pas écouter davantage. Il regardait, tout simplement, et avec des yeux plutôt distraits. Quand la tournée fut finie, Maître Gousseau dit anxieusement « Eh bien ?»«
Quoi ? Vous savez ?»
L'étranger resta un moment sans répondre, puis il déclara « Non, rien du tout. »«
Parbleu ! » s'écria le fermier en levant les bras au ciel. « Est-ce que vous pouvez savoir ?» Tout ça, c'est de la frime. Voulez-vous que je vous dise, moi ? Eh bien, le père Traînard a si bien fait qu'il est mort au fond de son trou et que les billets pourriront avec lui. Vous entendez ? C'est moi qui vous le dis.
Le monsieur, très calme, prononça. Un seul point m'intéresse. Le cheminot, somme toute, étant libre la nuit, a pu se nourrir tant bien que mal. Mais comment pouvait-il boire ?
Impossible ! S'écria le fermier. « Impossible ! Il n'y a que cette fontaine et nous avons monté la garde contre toutes les nuits. »«
C'est une source. Où jaillit-elle ? » ?»«
Ici même. » »«
Il y a donc une pression suffisante pour qu'elle monte seule dans le bassin. » »«
Oui. » »«
Et l'eau, où s'en va-t-elle quand elle sort du bassin ?»«
Dans ce tuyau que vous voyez, qui passe sous terre et qui la conduit jusqu'à la maison où elle sert à la cuisine. » »« Donc, pas moyen d'en boire, puisque nous étions là et que la fontaine est à 20 mètres de la maison. »
Il n'a pas plu durant ces 4 semaines.
Pas une fois, je vous l'ai déjà dit.
L'inconnu s'approcha de la fontaine et l'examina. L'auge était formée par quelques planches de bois assemblées au-dessus même du sol et où l'eau s'écoulait, lente et claire.
Il n'y a pas plus de 30 centimètres d'eau en profondeur, n'est-ce pas ?
Dit-il. Pour mesurer, il ramassa sur l'herbe un fétu de paille qu'il dressa dans le bassin. Mais, comme il était penché, il s'interrompit soudain au milieu de sa besogne et regarda autour de lui.
« Ah, que c'est drôle !» dit-il en partant d'un éclat de rire.
« Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?»
balbutia Maître Gousseau, qui se précipita sur le bassin comme si un homme eût pu se tenir couché entre ses planches exiguës. Et la mère Gousseau supplia.
« Quoi ? Vous l'avez vu ? Où est-il ? » ?»«
Ni dedans, ni dessous, » répondit l'étranger qui riait toujours. Il se dirigea vers la maison, pressé par le fermier, par la femme et par les 4 fils. L'aubergiste était là également, ainsi que les gens de l'auberge qui avaient suivi les allées et venues de l'étranger. Et on se tut dans l'attente de l'extraordinaire révélation.
Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.